de l'info sur VOA Afrique.
Washington, la voix de l'Amérique, Bagassi Koura, lieu et place de Camille Gros-Didier pour cette édition de Carrefour Sciences et Santé, un programme que vous pouvez suivre également sur le réseau Afrique Santé de la VOA. Quelques titres tout d'abord. Bonne nouvelle dans la lutte contre l'épidémie d'Ebola en Sierra Leone. Le nombre de cas poursuit sa tendance à la baisse. Pendant ce temps, l'épidémie de méningite qui sévit depuis janvier dans plusieurs régions du Niger empire. Peut-on recréer le mammouth? C'est ce que tente une équipe internationale de scientifiques qui a séquencé le génome complet de mammouth laineux. Les scientifiques et les ingénieurs font des progrès vers la création de prothèses intelligentes, des membres qui peuvent être contrôlés par l'esprit de l'utilisateur.
Nous avons mis des capteurs dans les muscles et les muscles vont capter des signaux. Les signaux vont se déplacer dans les prothèses, puis les prothèses réagissent en fonction de ce que votre cerveau veut.
La bonne nouvelle dans la lutte contre l'épidémie d'Ebola en Sierra Leone, le nombre de cas poursuit sa tendance à la baisse. Un remarquable résultat que l'on doit en partie aux efforts préventifs des dignitaires religieux. Les précisions de Lionel Gaïma.
La Sierra Leone est un pays d'une grande ferveur, mais aussi d'une grande tolérance, chrétiens et musulmans se respectant mutuellement. Leur dignité religieuse pousse cette collaboration plus loin en travaillant ensemble pour éradiquer l'Ebola. Dans les mosquées et les églises, ils citent des passages du Coran ou de la Bible à l'appui de leur message de sensibilisation. Cette idée a été lancée par une ONG locale ayant reconnu l'importance de travailler avec des leaders religieux respectés dans leur communauté. Les gens étaient réticents à l'idée de mettre en quarantaine les malades de l'Ebola jusqu'à ce que cette nécessité soit expliquée à l'église, se rappelle la révérende Christina Sutton Koroma.
C'est un élément clé que nous disent les Saintes Écritures dans les Lévitiques, à savoir que si quelqu'un est atteint d'une maladie infectieuse de la peau, cet individu et la communauté doivent être placés en quarantaine.
Après ces explications de la révérende Koroma, les gens ont commencé à écouter et mieux comprendre le message contre le virus Ebola, témoigne Lamarou Camara, une de ses ouailles.
J'ai vu beaucoup de changements au sein de ma communauté et nous rendrons grâce à Dieu pour les précautions que nous prenons tous maintenant.
Le docteur Ramadan Diallo, imam d'une mosquée de Freetown, trouve lui aussi des exemples dans le Coran pour prêcher contre la fièvre hémorragique. L'islam met en garde contre toute chose qui menace la vie d'un individu. Ainsi donc, si vous devez toucher et laver un corps et cela va créer un problème, alors l'islam met en garde contre cela. L'ONG World Vision a mis en œuvre à travers le pays une initiative similaire impliquant les leaders religieux. Leslie Scott de cette ONG pour la Sierra Leone.
S'il y a une chose que l'on peut reconnaître à la Sierra Leone, c'est la tolérance religieuse. Et j'espère que le monde apprendra en Sierra Leone que chrétiens et musulmans peuvent coexister et accomplir de grandes choses, ainsi que nous l'avons fait ensemble dans la lutte contre l'Ebola.
La fièvre hémorragique à virus Ebola a tué plus de 3000 personnes en Sierra Leone depuis son apparition il y a presque un an.
Un nouveau rapport constate que les travailleurs sanitaires en Guinée, en Sierra Leone et au Libéria ont été infectés par le virus Ebola de façon disproportionnée. Le rapport de l'Organisation mondiale de la santé affirme que ces travailleurs sont 21 à 32 fois plus susceptibles d'être infectés par le virus Ebola que les adultes dans la population dans son ensemble. Le reportage de Lisa Schlein de Genève, présenté ici par Jean-Roger Bion.
On sait que la flambée d'Ebola a eu un effet dévastateur sur les travailleurs de la santé déployés dans la lutte contre l'épidémie en Afrique de l'Ouest. Le rapport de l'OMS offre pour la première fois un bilan détaillé de l'impact dévastateur de la maladie sur le personnel médical dans la région, un personnel déjà rare et fragile en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone. L'OMS estime que le virus Ebola a infecté 815 travailleurs de la santé depuis son apparition en janvier 2014 jusqu'à fin mars 2014. 2015 et que plus de 50% sont des infirmiers et aides-soignants. L'organisation affirme que les deux tiers des personnes infectées sont mortes. Ed Kelly est directeur du département de la sécurité et de la prestation des services de l'OMS. Il affirme qu'au début de l'épidémie, les travailleurs de la santé étaient beaucoup plus vulnérables par manque d'équipement.
Depuis lors, des efforts massifs de l'OMS et d'autres partenaires ont été faits pour envoyer de l'équipement de protection individuelle dans ces pays. D'importants efforts en matière de formation ont été réalisés.
Le Libéria est le seul des trois pays d'Afrique de l'Ouest où la fin de l'Ebola a été déclarée. L'Organisation mondiale de la santé affirme que cela prendra encore plusieurs mois avant que la Sierra Leone et la Guinée soient débarrassées de la maladie. Les trois pays ont cependant commencé à travailler sur la phase de récupération. Rudiger Craig, de l'équipe de l'OMS pour les systèmes de santé et l'innovation, affirme qu'un accent principal sera mis sur le renforcement des systèmes de santé durable.
Ce sera notre principale préoccupation à moyen terme parce que la raison principale de cette crise est que ces pays avaient des systèmes de santé très fragiles. Non seulement ces pays, mais il y a au moins 28 autres qui ont des systèmes de santé fragiles similaires à ceux de Guinée, de Sierra Leone et du Libéria. Donc notre travail ne sera pas limité à l'Afrique de l'Ouest.
L'OMS invite instamment la communauté internationale à fournir l'argent nécessaire pour renforcer les systèmes de santé et met en garde contre le risque d'une nouvelle catastrophe sanitaire.
L'épidémie de méningite qui sévit depuis janvier dans plusieurs régions du Niger empire. Elle a déjà fait plus de 350 morts sur plus de 5200 cas suspects recensés, selon les autorités sanitaires, indique Médecins sans frontières dans un communiqué. La capitale Niamey est particulièrement affectée, relève MSF. Dorian Job est responsable adjoint de la cellule d'urgence de MSF. Elle nous en dit plus.
Déjà, le Niger se trouve dans la ceinture méningite. Et il y a quand même deux particularités pour cette épidémie de méningite. Ce n'est pas tous les jours que ça arrive. La première, c'est une souche qui n'est totalement inhabituelle, qui était plutôt mineure dans le passé. Et donc, c'est la première fois qu'on a une souche C qui devient épidémique avec une telle ampleur. Et le deuxième élément, on appelle le taux d'attaque, qui est quand même assez élevé, surtout sur la capitale. On est probablement plus de 400 actuellement par 100 000 et qui est très élevé. Donc, elle a commencé un peu à bas bruit et puis à partir de la semaine 17, mais voilà, ça s'est fortement accentué et donc la majorité des cas sont apparus durant les trois dernières semaines. Donc, ça a pris de vitesse un peu tout le monde. Voilà, donc ça explique un peu la situation sur Niamey, mais aussi sur les autres districts aux alentours.
Les populations qui avaient été vaccinées contre la méningite sont-elles protégées contre cette souche?
Non, ce qui se passe, c'est que historiquement, c'est la majorité des souches, on appelle des méningocoques, principalement de type A parmi les cinq souches, c'était celle qui causait plus fréquemment les épidémies et c'est sur lequel les vaccins se sont concentrés les dernières années. Et cette fois-ci, c'est pour ça que ça a surpris un peu tous les spécialistes, c'est que c'est la souche C, ce qui n'est jamais arrivé dans le passé.
Est-ce qu'on dispose d'un vaccin quelconque contre cette souche?
Il y a les tétravalents qui existent, mais qui sont bien sûr un peu moins disponibles au niveau quantité et aussi au niveau des coûts, bien sûr. Donc les vaccins existent, donc maintenant il faut vacciner de façon plus large avec des vaccins qui sont moins disponibles dans les stocks mondiaux. Et voilà.
Et en attendant d'être vaccinés, que peuvent faire les populations pour se protéger?
Il y a la prise en charge qui est très importante. Et donc la première chose, c'est de leur offrir la prise en charge. Ça peut fortement diminuer la mortalité de plus de 50% à moins de 10%. Donc c'est déjà une chose qui est importante et leur donner accès dans l'ensemble des zones qui sont touchées. Et donc c'est là où on déploie les structures de référence, la décentralisation et la prise en charge spécialisée pour ces cas. Donc ça, c'est déjà un point. L'autre élément, mais bien sûr, c'est tout ce qui est le travail au niveau du lobby pour la vaccination et pour mobiliser les vaccins qui sont disponibles dans le monde pour les faire amener pour commencer la vaccination qui a déjà commencé dans certains endroits depuis quelques semaines.
C'était Dorian Job, responsable adjoint de la cellule d'urgence de Médecins sans frontières. Quelques 300 000 doses de vaccins sont arrivées dans le pays et sont en cours de distribution. Plus du double ont été commandées sur 1,8 million nécessaires. Très contagieuse, la méningite se manifeste par une montée brutale de la température, de violents maux de tête, des vomissements et une raideur du cou. Les scientifiques et les ingénieurs font des progrès vers la création de protèges intelligentes des membres qui peuvent être contrôlés par l'esprit de l'utilisateur grâce à des capteurs sophistiqués capables de transmettre les signaux du cerveau. Le cas d'un amputé en Islande nous rapproche un peu plus de cet objectif. Le reportage de Georges Poutic, présenté par Claire Morin-Gibour.
Ça semble très naturel quand Gumi Olafsson bouge sa jambe artificielle.
It took me about 10 minutes to get control of it. And I could stand up and just walk away.
Il m'a fallu environ 10 minutes pour prendre le contrôle de celle-ci. Je pouvais me lever et partir.
Pour Olafsson, c'est comme s'il se déplaçait avec ses propres muscles. L'année dernière, de minuscules capteurs développés par la fondation Alfred Mann aux États-Unis ont été implantés dans le tissu musculaire qui reste quand il a dû être amputé de sa jambe droite il y a 10 ans. Le chirurgien orthopédiste Thorvaldur Ingvarsson est en pleine opération.
We put in sensors into the muscles who pick up this signal.
Nous avons mis des capteurs dans les muscles et les muscles vont capter des signaux. Les signaux vont se déplacer dans les prothèses, puis les prothèses réagissent en fonction de ce que votre cerveau veut.
Capteurs implantés ont été 543-E10. Les capteurs implantés ont été déjà utilisés, mais Ingvarsson affirme que c'est la première fois que l'amputé est en mesure de déplacer la jambe bionique sans se focaliser intensément sur la tâche. Olafsson soutient qu'à force de pratique, il contrôle mieux son membre artificiel.
Chaque jour, vous apprenez davantage sur la façon de marcher correctement avec le pied, comment l'utiliser pour descendre, pour monter, aller en bas, en haut, même en position assise et debout sur une chaise.
Un autre patient orthopédique en Islande a eu des résultats similaires et au début de cette année, trois patients en Autriche ont commencé à utiliser la même technologie pour contrôler leurs mains bioniques. Les chercheurs affirment que la prochaine étape est d'élaborer des membres bioniques qui permettront aux utilisateurs de prothèses de sentir réellement ce qu'ils touchent.
Une équipe internationale de scientifiques a séquencé le génome complet du mammouth laineux dirigé par le Musée suédois d'histoire naturelle de Stockholm. Le travail veut recréer l'énorme herbivore qui a disparu de la Terre il y a 4000 ans. Le reportage de Roxane Skirbel, présenté ici par Eddie Isango.
Beth Shapiro est à la recherche des vieux os sur un site minier dans les territoires de Yukon, au Canada. C'est vraiment cool. Ce que nous venons de trouver est un, deux, trois morceaux d'eau de mammouth ici. Je viens d'entendre ces bruits d'eau de là-bas. Cela signifie que notre trou s'est ouvert. L'eau arrive, nous ferons mieux de sortir d'ici. Dans son livre « Comment cloner un mammouth », les professeurs agrégés d'écologie de l'Université de Californie imaginent ramener à la vie ses anciens cousins de l'éléphant. Mais la déextinction est un processus compliqué. Contrairement à la brebis Dolly, clonée au milieu des années 1990, les mammouths ne sont pas candidats à une telle approche.
There are no living cells, so we can't clone an extinct
Il n'y a pas
species.
De cellules vivantes, de sorte que nous ne pouvons pas cloner une espèce éteinte. Mais la génomique offre une autre possibilité. Shapiro affirme qu'en identifiant les gènes qui diffèrent entre les mammouths et son plus proche parent vivant l'éléphant d'Asie, les chercheurs ont préparé les terrains pour la modification génétique. En substance, cette technologie de modification du génome va échanger les parts du génome d'un éléphant pour la version gigantesque des gènes que nous connaissons, essentiels pour qu'un mammouth ressemble et agisse comme un mammouth. Mais pourquoi le faire? Se demande Ross McPhee, conservateur des mammifères au Musée américain d'histoire naturelle à New York. Si les animaux ne jouent plus de rôle écologique parce qu'ils ont disparu depuis des centaines et même des milliers d'années, qu'est-ce que cela signifie de les ramener et les conserver dans un environnement avec lequel ils n'ont vraiment aucune relation? Pour Shapiro, la déextinction peut jouer un rôle, pas celui de ramener les passés, mais pour protéger les espèces aujourd'hui menacées et en voie de disparition.
Si nous pouvons créer un animal qui peut ramener les caractéristiques d'une espèce disparue, nous pouvons en quelque sorte sauver les espèces vivantes ou rétablir ou revigorer les écosystèmes existants. Cet argument ne convainc pas McPhee. Je pense que la seule façon d'avancer est d'avoir une conversation, permettre aux gens d'être au courant des enjeux et espérer avoir dans le temps les deux solutions politiques et économiques. Beth Shapiro se félicite de la discussion, surtout avant que la déextinction ait lieu, qui, selon elle, ne se produira pas de sitôt.
Le président Barack Obama a déclaré mercredi que le changement climatique pose des risques immédiats pour la sécurité nationale des États-Unis en accentuant les possibilités de catastrophes naturelles et de crises humanitaires. Le chef de l'exécutif américain a tiré la sonnette d'alarme en s'adressant aux jeunes officiers de l'Académie des gardes-côtes à New London dans le Connecticut. Michel Joseph.
Selon M. Obama, les effets du changement climatique affecteront les forces armées américaines dans la défense de leur pays. Il a ajouté que le monde doit agir d'urgence pour combattre les effets du réchauffement de la Terre. Le changement climatique particulièrement, la hausse du niveau de la mer, constitue une menace à la sécurité de notre pays, notre infrastructure économique, la sécurité et la santé du peuple américain.
Climate change poses a threat.
Le changement climatique pose une menace à l'état de préparation de nos forces. Beaucoup de nos installations militaires sont sur la côte, y compris, bien sûr, les stations de garde-côtes. Autour de Norfolk, en Virginie, les grandes marées et les orages provoquent de plus en plus d'inondations sur certaines zones de notre base navale et de notre base aérienne. En Alaska, la fonte du permafrost endommage nos installations militaires. À l'ouest, les sécheresses prolongées et les incendies pourraient menacer des zones d'entraînement dont dépendent nos troupes.
Vous faites partie de la première génération d'officiers qui va commencer à servir dans un monde où les effets du changement climatique se font clairement sentir, a encore dit le président, aux jeunes officiers. Selon lui, ce changement climatique va façonner comment chacune des branches de l'armée américaine opère, s'entraîne, s'équipe et protège ses infrastructures, capacités aujourd'hui et dans le long terme. Selon la Maison-Blanche, le Pentagone a lancé une étude pour évaluer la vulnérabilité des quelque 7000 bases et installations de l'armée américaine en raison des effets du changement climatique qui, a averti M. Obama, n'épargne aucune nation du monde et augmente les risques d'instabilité et de conflits dans le monde. Le président a parlé d'une augmentation prochaine du nombre de réfugiés climatiques et il a recommandé une utilisation accrue de l'énergie solaire et éolienne, de voitures consommant moins d'essence et une réduction des gaspillages d'énergie. En réaction aux déclarations du président Obama, le sénateur républicain John Barroso du Wyoming a ridiculisé l'idée selon laquelle le changement climatique serait une menace à la sécurité nationale.
Les Américains comprennent qu'il y a des menaces beaucoup plus immédiates pour notre nation, la chute de Ramadi en Irak et les attaques brutales de terroristes du groupe État islamique. Il s'agit là d'exemples clairs de la menace réelle à laquelle le président doit s'attaquer.
Pour sa part, le président a ironisé « Je sais qu'il y a encore des gens à Washington qui refusent d'accepter la réalité du changement climatique. » À ceux qui aiment à dire, en guise d'argument, « Je ne suis pas un scientifique », M. Obama a rétorqué « La science est indiscutable, la planète se réchauffe ».
Camille Grosdidier, suivez avec nous Carrefour Science et Santé, un programme que vous pouvez suivre également sur le réseau Afrique Santé de la VOA.
Et pour terminer, quelques nouvelles brèves. Près de 3000 nouveaux cas de choléra ont été enregistrés en Tanzanie, principalement parmi les réfugiés burundais fuyant les violences politiques. C'est ce qu'a annoncé vendredi l'ONU, soulignant que près de 400 cas étaient signalés quotidiennement. Jusque-là, au moins 31 personnes sont mortes du choléra dans une zone située près de la ville frontalière de Kaguna, qui est submergée par des arrivées de réfugiés, a ajouté l'ONU. Un programme pour éradiquer le paludisme qui fait actuellement 600 000 morts par an au cours des 15 prochaines années a été adopté, annoncé jeudi l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Les diplomates rassemblés à Genève pour assister à l'Assemblée annuelle de la santé, l'instance décisionnelle de l'OMS, ont entériné mercredi soir un plan visant à réduire de 40% les cas de paludisme d'ici l'an 2020 et de 90% d'ici à 2030, a indiqué l'OMS. La découverte d'outils humains vieux de 3,3 millions d'années, annoncée dans la revue Nature mercredi, révolutionne les connaissances sur l'évolution humaine en prouvant que nos ancêtres les fabriquaient plutôt que ce que l'on pensait. La découverte faite à l'ouest du lac Turkana au Kenya recule de 700 000 ans l'apparition des premiers outils de pierre taillée. À ce jour, les plus anciens instruments dataient de 2,5 millions d'années. Ils avaient été découverts sur le site de Gona, en Éthiopie. Et puis enfin, la domestication du chien a commencé beaucoup plus tôt que généralement estimé jusqu'à présent et remonterait à plus de 27 000 ans selon l'analyse génétique d'un fragment de mâchoire d'un ancien chien loup de Sibérie datant de 35 000 ans. Ainsi, les humains auraient apprivoisé des chiens il y a plus de 27 000 à 40 000 ans, estiment ces chercheurs suédois dont les travaux ont été publiés jeudi dans la revue Current Biology. Ainsi s'achève cette édition de Carrefour Sciences et Santé de La Voix de l'Amérique. Au micro, Bagassi Koura qui vous remercie de l'avoir suivi.
Contre le virus Ebola, VOA Afrique se mobilise. Rejoignez-nous sur WhatsApp. C'est simple, ouvrez l'application smartphone WhatsApp et envoyez Ebola au numéro suivant 1 202 257 35 83. Je répète, 1 202 257 35 83. Vous recevrez des infos et des conseils de prévention contre le virus. Restez informés. VOA Afrique.
Bienvenue au réseau Afrique Santé, réseau multimédia qui atteint chaque semaine une audience des 50 millions d'Africains.
Nous vous offrons des nouvelles et des informations pertinentes, fiables, sur la santé.
Nous parlerons des problèmes de santé qui vous préoccupent le plus et de ceux qui affectent votre communauté.
Apprenez davantage, vivez mieux avec le réseau Afrique Santé sur notre site www.réseauafriquesante.com.
Arrêtez la transmission du ver de Guinée dès aujourd'hui. Si vous pensez que votre eau de boisson pourrait contenir des larves du ver de Guinée, filtrez-la.
Ne buvez que de l'eau saine. L'eau saine provient des forages, des puits protégés et de l'eau de pluie collectée.
Réfléchissez avant de boire.
Protégez-vous, protégez votre famille et protégez votre communauté du ver de Guinée.
Chaque année, le paludisme tue 700 000 enfants africains de moins de 5 ans. Le paludisme tue un enfant toutes les 30 secondes. 30 secondes, c'est le temps qu'il vous faut pour écouter ce message. Le paludisme rend aussi les enfants vulnérables à d'autres maladies. Mais on peut éviter le paludisme. Les moustiquaires imprégnés d'insecticides sont un moyen simple et pas cher de protéger votre enfant. Avec les moustiquaires répulsives, vous aidez l'Afrique à se débarrasser du paludisme. Ceci est un message de l'initiative Faire reculer le paludisme et l'Organisation mondiale de la santé.
Un message pour la jeunesse.
Vagabond Squad. Vagabond. Une fille protège-toi du sida. Ne laisse pas une seringue divisée rentrer dans ton bras. Mon ami, ces jeunes hommes pour ne pas être séropositif. Assure-toi toujours de mettre des préservatifs. Une fille protège-toi du sida. Ne laisse pas une seringue divisée rentrer dans ton bras. Mon ami, ces jeunes hommes pour ne pas être séropositif. Assure-toi toujours de mettre des préservatifs.
Protège-toi. Le sida est une réalité. Protégez-vous. Contribuez à l'éradiquer en parlant ouvertement autour de vous.